Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Et comme tous les mercredis de 20h à 21h, vous êtes à l'écoute de l'émission Idées Noires, l'émission de l'UCEL, l'Union Communiste Libertaire. Canu 102.2, la plus rebelle des radios. On vous le disait, comme tous les mercredis soirs, en direct de 20h à 21h sur 102.2, c'est l'émission Idées Noires, l'émission du groupe local de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. On est ensemble pendant une heure parmi laquelle on va faire le tour de l'actualité nationale, sociale, internationale. En tout cas, pas mal de choses à voir ensemble. Et comme traditionnellement, on commence par les rendez-vous et annonces des différentes mobilisations. Et il y en a un paquet.
Ouais, salut David, salut tout le monde. On commence donc, comme tu le disais, avec la marche au flambeau qui aura lieu demain à 19h, place des Terreaux. C'est une marche pour la libération de Georges Abdallah, prisonnier politique incarcéré en France alors qu'il est libérable depuis 1999. Une marche également contre le génocide à Gaza et pour le cessez-le-feu au Liban. On vous en a parlé dans cette émission de Georges Abdallah. Georges Abdallah, c'est un militant de la cause palestinienne qui est emprisonné depuis 40 ans. Une incarcération qui dure sous la pression politique des États-Unis, une incarcération à la limite de la légalité, mais qui est pourtant légitimée par les pouvoirs politiques français, et une justice qui lui refuse toujours sa liberté alors qu'il a purgé la peine pour laquelle il avait été condamné. Après-demain, le 15 novembre, c'est le tribunal d'application des peines de Paris qui rendra sa décision pour cette dixième demande de libération qui a été déposée le 26 octobre dernier. Son combat, il fait évidemment écho aujourd'hui à toutes les luttes pour la libération du peuple palestinien qui subit les bombardements et la colonisation, et du peuple libanais qui se fait lui aussi envahir par l'armée israélienne. Demain, donc, ces luttes convergeront dans 18 villes. Pour Lyon, ce sera place des Terreaux à 19h. Dans un tout autre registre, ce samedi, il y aura la projection du documentaire Alliance Terrestre, un film qui rassemble des images recueillies ces trois dernières années, qui parle de la lutte contre l'A69 et de la réappropriation quotidienne de pratiques collectives et horizontales et en lien direct avec les milieux naturels. Malgré les engagements citoyens contre ce projet de l'A69, les travaux continuent de plus belle. La répression policière, elle aussi, continue. Les groupes fascistes viennent à s'en mêler et agresse des militants. Des arbres continuent aussi d'être abattus pour un projet écocide qui ne va que dans le sens des intérêts privés. On vous en a déjà parlé ici. Ce documentaire qui décrit ces trois années de lutte sera diffusé ce samedi donc au cinéma Paradisio. C'est à Saint-Martin-en-Haut, c'est pas tout à fait à Lyon, hein, mais c'est à moins d'une heure d'ici. Mais on y capte encore Radio Canu, il me semble. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y aller, ce sera à 19h. On revient à Lyon et au sujet de la cause palestinienne avec une table ronde à l'Alternative Bar sur la répression du mouvement de solidarité avec la Palestine et le Liban. C'est organisé par Action Justice Climat, Urgence Palestine Lyon et la Ligue de Jeunesse Révolutionnaire. Ce sera donc à l'Alternative Bar, montée de la Grande Côte en bas des pentes, mardi à 19h. On l'a vu, hein, et on le voit encore. S'exprimer contre les massacres qui ont lieu en Palestine et au Liban reste difficile. Les voix qui condamnent les actions de Tsahal sont au mieux silenciées et au pire réprimées. Les questions abordées lors de cette discussion, elles sont simples. C'est comment faire face à cette répression et comment garder espoir dans la lutte. Ce sera l'Alternative Bar, mardi 19, ouverture des portes à 19h. Et puis mercredi prochain, le 20 novembre, c'est la journée du souvenir trans. Il y aura un rassemblement place de la Comédie à Lyon, dans le premier arrondissement, à 19h, qui sera suivi d'un temps de soins communautaires au centre LGBTI de Lyon. Le but de cette journée du souvenir, c'est de commémorer toutes les personnes assassinées pour des raisons transphobes. C'est aussi l'occasion de sensibiliser aux nombreuses agressions envers la communauté trans. On en parle dans cette émission, hein, les agressions contre les personnes trans, elles se multiplient, leurs droits reculent, et ça n'ira pas en s'arrangeant avec les diverses annonces gouvernementales ici ou outre-Atlantique. On en parlera un peu plus tard, hein, tout à l'heure, mais les premières annonces après l'élection de Donald Trump envoient un signal effroyable à la communauté trans. Et à l'occasion de cette journée, du coup, de mercredi prochain, le centre LGBTI organise aussi la projection du documentaire L'Ordre des Mots, à travers le témoignage de 6 activistes et militantes et militants. Ce documentaire, il fait l'état des lieux de la question trans et intersexe en France. La lutte pour les droits des personnes trans et intersexes est loin d'être terminée. Et le centre LGBTI nous invite à partager la mémoire des victoires passées et surtout d'espérer toutes les victoires à venir. Et en cette journée donc pour du souvenir trans, c'est l'occasion de vous annoncer la création récente de l'antenne lyonnaise de l'OST. L'OST, c'est l'organisation de solidarité trans qui aide les personnes trans ou leurs proches dans les transitions sociales, médicales ou administratives et qui peut accompagner les personnes victimes de transphobie. L'OST a des permanences destinées au public et si vous souhaitez les contacter, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux à l'adresse OST Lyon. Tout attaché @riseup.net. On espère d'ailleurs pouvoir les recevoir bientôt pour discuter de leur création et puis de toute l'actualité des luttes trans actuelles et à venir, ici comme ailleurs. Au passage, d'ailleurs, quelques chiffres qui ont été publiés aujourd'hui par TGEU, une organisation à but non lucratif qui lutte pour les droits des personnes trans. Par exemple, entre octobre 2023 et 2024, 350 personnes trans ont été tuées, un chiffre qui monte à 5000 si on compte depuis 2008, date à laquelle le TGEU a commencé le décompte. Sur ces 350 personnes de cette année, 15 avaient moins de 19 ans. Et si les chiffres en Europe ont globalement baissé depuis 2023, on remarque une augmentation de 30% aux États-Unis. Et ces quelques chiffres, malheureusement, sont très certainement sous-évalués puisque les crimes de haine transphobe ne sont pas toujours reconnus comme tels par la justice. Donc voilà, pour rappel, hein, cette journée du 20 novembre prochain, elle commencera à 19h avec un rassemblement place de la Comédie, suivi d'un temps de soins au centre LGBTI. La projection du documentaire L'Ordre des Mots à partir de 21h. Et puis une dernière annonce qui concerne également les violences sexistes et sexuelles, c'est le festival Brisons le silence organisé par Filaction. Il aura lieu le 25 novembre, date de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des minorités de genre. Au programme, il y aura des diffusions de films et de documentaires, des pièces de théâtre, des soirées, concerts et performances artistiques, des ateliers artistiques de création de badges, de pancartes ou de toute autre expression libre sur les violences faites aux femmes, des ateliers d'expression corporelle en partenariat avec des associations, de l'autodéfense féministe aussi en partenariat avec des associations locales, des tables rondes, des conférences et d'autres prises de parole publiques, et enfin des stands d'information avec des brochures de ressources en cas de violences subies et des outils pédagogiques pour mieux comprendre ces violences. C'est dans un peu plus longtemps, hein, c'est le 25 novembre. Les camarades vous en parleront sûrement mercredi prochain, mais on voulait quand même vous prévenir un peu à l'avance parce que l'association a besoin de bénévoles et elle propose aussi de co-créer des actions culturelles à l'occasion donc de ce festival. Donc si vous souhaitez vous impliquer, vous pouvez les contacter sur leur site filaction.org. Il y aura un petit formulaire à remplir.
Et puis on peut aussi en profiter pour annoncer que dans le cadre de ces mobilisations autour du 25 novembre, autour de cette journée internationale des violences faites aux femmes et des minorités de genre, le samedi qui précède, le samedi 23 novembre, il y aura une manifestation unitaire contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre à 15h, place Bellecour à Lyon. Là pareil, je pense que les camarades à l'antenne mercredi prochain développeront un peu plus le sujet, mais vous pouvez déjà noter ça sur vos tablettes et agendas.
Et pour finir, tu avais une annonce aussi à nous partager, Dan.
Exactement, il n'y a pas un petit rendez-vous Café Libertaire du côté de la Plume Noire aussi?
Alors le prochain, il faudra que j'aille voir dans mes notes.
On vous le rappellera d'ici un peu plus tard,
ouais.
un peu plus tard dans l'émission. Café Libertaire du côté de la Plume Noire, on vous rappelle, hein, la librairie des militantes et militants de l'UCL, libertaire autogérée sur les pentes de la Croix-Rousse, du côté du 8 rue Diderot, qui est ouvert en général tous les samedis de 15h à 19h, sauf si bien évidemment mobilisation. Dans ces cas-là, les portes sont ouvertes un peu plus tard, mais suivez les réseaux sociaux de l'UCL, c'est en général régulièrement annoncé.
Oui.
Une dernière annonce dont on se serait bien passé, qui concerne la répression syndicale. La répression syndicale dans l'éducation nationale. Alors on parlera des mobilisations sociales un peu plus tard dans cette émission, et puis des plans d'austérité et de la chape de plomb libérale qui est en train de s'abattre sur les services publics et sur l'éducation nationale en particulier, en même temps que les licenciements pleuvent dans le secteur du privé. Et il y a de quoi se faire du souci, parce que tout ça s'accompagne parallèlement d'un développement d'une répression syndicale. C'est le cas dans l'Académie de Lyon envers deux militants syndicalistes de la CGT Éducation de Saint-Étienne, où après le dépôt de plainte de la part de leur chef d'établissement l'année dernière, bah, ces deux enseignants du lycée professionnel Étienne Mimard à Saint-Étienne ont reçu un courrier début octobre les informant qu'une procédure disciplinaire avait été ouverte à leur encontre. Ces deux militants, en fait, ce sont des élus au conseil d'administration de leur lycée professionnel, et puis ils siègent également au comité social d'administration éducation nationale de la Loire, donc des militants relativement impliqués. Et ces syndicalistes sont accusés ouvertement, pour reprendre les termes qui ont été utilisés, d'outrepasser leurs prérogatives de représentants du personnel et syndical dans leur lycée, d'avoir manqué à leur soi-disant devoir d'exemplarité. Alors en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que depuis 2 ans, avec l'appui d'une large majorité des élus du conseil d'administration de leur établissement, dont les parents d'élèves, et ben ces militants se sont maintes fois interposés à des mesures de démolition sociale du service public d'éducation. Ils sont maintes fois intervenus pour que le cadre réglementaire soit respecté, et puis donc pour dénoncer la dégradation des conditions de prise en charge des élèves et garantir un service public d'éducation de qualité. Alors ce qu'il y a de nouveau et ce qu'il y a un peu d'inédit, c'est que le rectorat de Lyon a quand même décidé d'instaurer cette procédure disciplinaire sur l'unique base de leur action en tant que représentant personnel et en tant que du personnel et en tant que représentant syndicaux, sans qu'il soit possible de leur faire aucun reproche concernant leur rôle d'enseignant ou leur posture face aux élèves. Et c'est en cela que c'est inédit et que c'est une véritable démarche de répression syndicale à laquelle on assiste. Et avec bien sûr avant tout l'aval du chef d'établissement de ce lycée professionnel. Lors d'un rassemblement qui s'est tenu récemment devant le lycée Mimard à Saint-Étienne, qui a réuni plus de 200 personnes, les représentants des parents d'élèves avaient d'ailleurs dénoncé au micro toute une série de dysfonctionnements depuis l'arrivée de l'actuel proviseur. Et puis ils ont indiqué que les parents étaient eux-mêmes méprisés, infantilisés, et ils ont pu que constater le non-respect des règles de la démocratie, du dialogue au sein de l'établissement. Du coup, c'est dans ce contexte-là qu'intervient cette répression syndicale. Et si la criminalisation de l'action syndicale par un dépôt de plainte pour diffamation pour s'être exprimé dans la presse locale, cumulée au fait d'être accusé d'outrepasser leurs prérogatives de représentants syndicaux, est inacceptable dans un pays soi-disant démocratique et contrevient à tous les droits garantis aux représentants syndicaux, elle doit tout simplement cesser immédiatement. Et c'est pour ça qu'on peut que s'opposer et dénoncer les sanctions que risquent ces deux collègues, parce que accepter que ces deux collègues-là et ces deux militants syndicalistes soient sanctionnés, ça serait tout simplement sanctionner le libre exercice du droit syndical, et on peut que demander la levée des poursuites et que ne soit prononcée aucune sanction à l'encontre de ces deux militants syndicalistes CGT de l'éducation nationale. Et c'est pour ça qu'à l'appel d'un grand nombre d'organisations syndicales de l'éducation nationale, il y a un rassemblement qui est prévu ce vendredi 15 novembre, devant le rectorat de Lyon, rue de Marseille, dans le 7e arrondissement, à partir de 8h30, tout simplement au moment où se tiendra la commission disciplinaire qui concerne l'un des deux militants syndicalistes. Donc voilà, si vous voulez venir dénoncer la répression syndicale et exprimer votre solidarité avec ces militants CGT éducation victimes de la répression syndicale, vendredi 15 novembre, à partir de 8h30 et durant toute la matinée, rassemblement devant le rectorat de Lyon. Et pour information, on peut aussi signaler que pour les personnels de l'éducation nationale, s'il y a un préavis de grève qui a été déposé, donc si vous souhaitez vous mettre en grève pour venir témoigner votre solidarité, il ne faut pas hésiter à le faire, c'est tout à fait possible et c'est légal, parce qu'on n'oublie jamais qu'un coup contre l'un d'entre nous est un coup contre tous, et que la meilleure réponse, c'est la réponse collective, et c'est bien sûr la solidarité qui reste notre arme. Voilà ce rendez-vous de vendredi contre la répression syndicale qu'on voulait, on voulait vous faire part pour terminer ces rendez-vous et ces annonces de lutte en ce début de cette émission Idées Noires, pour laquelle on va tout de suite faire une première pause musicale. On est le 13 novembre, avant-hier c'était le 11 novembre, journée de commémoration de la grande boucherie de 14-18. On pouvait que commencer cette émission par une chanson antimilitariste, de à notre façon rendre hommage à ceux qui ont été victimes de cette grande boucherie de 1914 et 1918, et notamment ceux qu'on appelle les mutins de 1917, à travers cette très belle chanson interprétée par notre camarade Serge Ujiroyo sur les mutins de 1917.
Vous n'êtes pas au monument aux morts, vous n'êtes même plus dans les mémoires, comme vos compagnons de la mer Noire. Vous êtes morts, et deux fois morts, à vos petits-enfants on ne répète jamais comment finit leur grand-papa. Il y a des choses dont on ne parle pas, mutin de 1917. Sur votre dos, les Joffre et les Nivelles faisaient carrière dans les états-majors. Leur humeur décidait de votre sort. Aujourd'hui, qui se le rappelle? Au lieu de s'emmerder en garnison, au lieu de piétiner au même grade, c'était le temps béni de l'empoignade. Vous parlez d'une belle occasion. Vous aviez fait tant d'assauts inutiles, juste pour corser le communiqué. Vous vous sentiez tellement cocufié, tellement pris pour des imbéciles, que vous avez voulu que ça s'arrête, cet abattoir tenu par la patrie, cette nationale charcuterie, mutin de 1917. Avant l'attaque, arrivaient les cercueils, et vous coupiez votre pain sur leur planche, tout juste si le crêpe à votre manche n'annonçait votre propre deuil. Par malheur, la France n'était pas prête, se révolter lui paraissait énorme, elle bavait encore devant l'uniforme, mutin de 1917. L'histoire vous a jeté dans ses égouts, cachant sous les flots de la Marseillaise qu'une bonne moitié de l'armée française brûlait de fer comme vous. Un jour sortirez-vous des oubliettes, un jour verrons-nous gagner votre cause. J'en doute, à voir le train dont vont les choses, mutin de 1917, mutin de 1917.
De retour sur Radio Canu dans l'émission Idées Noires, on est ensemble jusqu'à 21h et on vient d'écouter Mutin de 1917 de Serge Ruggiero. Et on va rester sur le sujet puisque David, tu vas nous parler de l'intérêt des luttes antimilitaristes aujourd'hui.
Et oui, l'antimilitarisme c'est pas terminé avec cette grande boucherie de 1914, ni avec la boucherie de la Seconde Guerre mondiale. L'antimilitarisme a toujours été une constante du mouvement ouvrier et une constante des idéaux libertaires. Si on avait envie de rendre hommage à ces mutins de 1917 qui ont su faire crosse en l'air, en bas la guerre, à bas la guerre, pour dénoncer cette grande boucherie de 1914 dont on a commémoré une fois de plus la victoire il y a deux jours à l'occasion du 11 novembre, et bien on voudrait rappeler que l'antimilitarisme fait toujours partie de nos combats, de nos valeurs, de nos convictions, que c'est pas simplement une position historique et théorique, mais que l'antimilitarisme est quelque chose de pertinent à l'heure où on assiste à une véritable militarisation de la société. Alors on sait que si l'Europe de l'Ouest et les États-Unis vivent globalement en paix sur leur territoire depuis la Seconde Guerre mondiale, ben c'est loin d'être le cas sur une grande autre partie du monde. Il suffit de regarder du côté de la Syrie, du côté de la Palestine, du Liban, et plus proche de nous encore, qui sur le territoire européen pourtant, en Ukraine et en Russie, bien évidemment, pour ne citer que quelques pays. Pourtant, en plus de tout ça, les signes d'une guerre un peu partout qui pourrait généraliser n'ont pas disparu. Et parallèlement à ça, la France, comme je disais, connaît une militarisation importante de sa société qui est permise notamment par les lois d'exception qui sont celles de l'état d'urgence. Un état d'urgence que les attentats ont légitimé, y compris au sein de la population. Mais plus encore que chez nous, c'est chez les autres qu'on exporte aussi la guerre, toujours aujourd'hui, et dont on est facteur de guerre, avec le matériel militaire, avec les opérations militaires, avec la continuité d'une politique néocolonialiste pour capter les richesses. On pourrait donner encore beaucoup d'autres exemples qui sont des facteurs militaristes, des facteurs impérialistes et des facteurs de guerre. Il ne faut donc pas qu'on se laisse tromper par notre situation de tranquillité européenne. Si nous avons l'illusion de vivre en paix, ce n'est pas le cas de l'humanité en général, et la guerre permanente qui est conduite dans le monde, eh bien souvent le fait est la responsabilité de nos gouvernements qui y sont associés. Et même si la guerre n'est pas d'actualité chez nous, donc il n'en est pas de même pour ce qui est de l'esprit militaire. On le disait, aujourd'hui, la militarisation a la bonne presse dans la société. Il suffit de regarder autour de nous, les soldats, ils patrouillent dans les rues, dans les gares. Les reportages chantent les louanges des soldats français en mission. Les campagnes de publicité ont pignon sur rue, sur les abrébus ou sur les quais du métro. Et plus de 80% des Français ont encore une bonne opinion de l'armée en faisant la deuxième institution la plus appréciée après l'hôpital. Pourtant, qu'en sait-on réellement ? Les données sur l'action de l'armée sont dures à trouver du fait d'une interdiction de l'ethnographie ou des travaux quantitatifs. Les scandales sont étouffés en interne et on est souvent condamné à ingurgiter une vision officielle, une propagande d'État en ce qui concerne l'armée, celle qu'on appelle la grande muette, et à se contenter de regarder les défilés sur les Champs-Élysées le 14 juillet, tout à la gloire de cette institution militaire. Alors, dans ces conditions, on peut se demander que reste-t-il de l'antimilitarisme et quelle est l'urgence de le réactiver et de d'en faire encore aujourd'hui un axe important de dénonciation de la militarisation de la société. Alors l'antimilitarisme, c'est bien évidemment l'opposition au militarisme, à l'armée, aux politiques bellicistes, aux politiques impérialistes, mais aussi aux formes d'organisation sociale hiérarchique et nationaliste qui sont des faces évidentes du militarisme. La dimension belliciste, elle recouvre le fait que l'armée au service d'un État va systématiquement servir les intérêts du pouvoir, en menant par exemple des guerres coloniales, des guerres extérieure ou en effectuant des opérations de maintien de l'ordre pour maintenir l'ordre public, un ordre public qu'on sait bien évidemment qui est un ordre social inégalitaire au profit des classes dirigeantes. Et il n'est pas étonnant que l'armée soit utilisée régulièrement dans plusieurs pays comme une arme politique On l'a vu notamment à l'occasion, par exemple, des révolutions arabes qui en ont tristement fait les frais. Alors la dimension impérialiste, elle découle aussi strictement de ce premier point, puisque l'armée comme instrument de gouvernement est le moyen pour un État d'imposer son pouvoir à une population, et notamment aux populations qui n'ont pas les mêmes outils pour se faire entendre. Et les guerres qui ont été menées récemment au cours des dernières décennies par les États-Unis, comme la Seconde Guerre d'Irak, sont caractéristiques, par exemple, d'un impérialisme qui visait à défendre des intérêts américains à l'étranger, on le sait très bien, les intérêts pétroliers en l'occurrence. Et la France n'est évidemment pas en reste, hein, on l'a pu le voir à l'occasion, par exemple, de ses différentes interventions au Mali. Alors, pendant que l'impérialisme continue à être une des expressions de l'armée, on sait qu'une des autres dimensions est celle du nationalisme. Qu'une armée qui défend un territoire national, elle met forcément en avant la nation, elle met forcément en avant les frontières, et pourquoi pas l'esprit d'un peuple et de ses traditions. Autant d'éléments auxquels nous, anarchistes, on s'oppose et auxquels on véhicule et on développe une autre vision du monde et des rapports sociaux. On peut pourtant pas nous reprocher de défendre la paix à tout prix, c'est-à-dire d'être dans un pacifisme béat, ce qui est la définition avec l'antimilitarisme. On sait que malheureusement, la lutte armée, elle peut être nécessaire dans certaines conditions, notamment en cas de défense. Mais le concept que les libertaires ont de la lutte armée, elle rompt avec les présupposés du militarisme. Notre forme de lutte armée est bien sûr non belliciste, elle est anti-impérialiste, elle est non hiérarchique et puis surtout elle est internationaliste. Et c'est une guerre de classe avant tout qui ne sert qu'à assurer une autodéfense à des conquêtes sociales qui ont été obtenues de manière populaire par les grèves, par l'action collective, par les différentes formes de transformation sociale. Et on en connaît quelques exemples historiques avec par exemple l'Ukraine macnoviste ou bien sûr l'Espagne noire et rouge de 1936. En tout cas, l'antimilitarisme s'oppose ainsi autant à l'usage guerrier de l'armée qu'à son esprit, autant à la guerre qu'au militarisme. Parce qu'en effet, ce qu'il faut peut-être le plus dénoncer aujourd'hui, c'est les formes du militarisme actuel. Il nous faut rappeler, par exemple, une fois de plus, qu'être militaire, c'est avant tout être au service d'un État. Il faut aussi se défaire de la propagande médiatique et gouvernementale qui présente l'armée sous la forme d'un nouveau développement personnel qui permettrait la réalisation de soi, la camaraderie, la protection des civils. Parce qu'en fait, au-delà de certaines compétences spécifiques fort triviales, comme le fait de se protéger d'une agression extérieure, ce qui n'est plus vraiment le cas pour les pays occidentaux depuis des années, le rôle de l'armée, il est irrémédiablement le même. On l'a dit, c'est bien celui du maintien de l'ordre, maintenir l'ordre et gérer les populations. Et il nous faut rappeler encore une fois que malgré les campagnes publicitaires dont on vous parlait, qu'on retrouve sur les abribus, jusque dans les écoles, l'armée n'est pas ce choix de vie bénin qu'on essaie de nous faire avaler. C'est pas une vocation comme une autre. C'est par les actions militaires que les États assoient leur impérialisme et leur pouvoir sur le territoire, que si la guerre ne fait plus partie de notre paysage immédiat, le militarisme se nourrit de la nécessité pour l'État de se défendre face à ses ennemis extérieurs, par exemple Daesh et l'État islamique qui ont été largement pointés du doigt, mais également face à ses ennemis intérieurs avant tout, ce qu'on appelle les terroristes, mais plus largement certaines classes de la population qui sont soupçonnées de trahison envers leur patrie. Les zadistes, certains écologistes radicaux, les musulmans pour certains, les juifs pour d'autres, et enfin bien sûr tous ceux qui n'adhèrent pas au grand récit national pour les plus nationalistes, ou tous ceux qui vont lutter pour tenter de construire un autre futur et remettre en cause l'ordre social inégalitaire qui est fondé sur le capitalisme et l'étatisme. Alors l'armée, c'est bien du coup un outil de domination, aussi bien physique qu'idéologique, qui amène à la constitution d'une identité commune contre les soi-disant déviances identifiées comme néfastes qui remettraient en cause l'ordre social inégalitaire et instauré. Et c'est bien contre ça que nous, anarchistes, on a décidé de se battre, contre cette militarisation de la société qui apparaît ici et maintenant fort problématique. Il faut ainsi donc réactualiser notre antimilitarisme en ciblant plus seulement la fonction impérialisme de la guerre comme au XXe siècle par exemple, mais aussi la fonction sociale de l'armée par le biais de la militarisation de nos sociétés, de nos esprits, tel que ça sentait d'être remis en place à travers ces dernières années le SNU qui a été à deux doigts d'être généralisé pour mettre au pas et pour militariser la jeunesse. La militarisation, elle est partout visible, on l'a dit, c'est les patrouilles, c'est la vidéosurveillance, c'est le fichage des populations, des militants, de ceux qui luttent, de ceux qui agissent, avec pour cela l'usage d'outils qui sont tout le temps plus perfectionnés que des drones aux identifications faciales ou autres, grâce aux outils numériques et informatiques. D'ailleurs, on le sait, le capitalisme lui aussi à bien flairer le filon. De plus en plus d'armées sont des armées basées sur des pratiques de haute technologie. Ce sont aussi parfois des armées privées, des armées de mercenaires qui combattent comme le plus offrant. On l'a vu encore récemment en Russie, par exemple, avec le groupe Wagner qui agissait au service de Poutine. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il est donc important de réaffirmer, de réactualiser notre position anarchiste de l'antimilitarisme. Il nous faut rappeler que l'esprit militaire, il est concomitant au nationalisme, à la discipline, à la domination de l'humain par l'humain, et qu'il est intrinsèquement un allié des conservateurs et des fascistes de tout poil, sans oublier bien sûr les industriels qui profitent très largement des opérations militaires. C'est pour ça que nous soutenons aucune armée, qu'il s'agisse de l'armée des soviets ou de l'armée de métier, et il nous semble au contraire très important de souligner que la militarisation des esprits, l'habitude de la soumission à cette institution et la normalisation de la présence militaire dans notre quotidien, ce sont des choses particulièrement dangereuses, néfastes et funestes. Dangereuses car elles habituent à la docilité, à la surveillance, à l'autocontrôle. Néfastes car c'est l'esprit militaire qui empêche toute liberté de penser et il est que soumission. Et puis enfin c'est funeste car nous pensons que rien de bien ne peut sortir de ces principes. Et pour tout cela, il est temps de prendre en compte le phénomène de militarisation de la société et des esprits, de réactualiser et réactiver la critique de cette utopie guerrière. Il n'y a pas de guerre juste, il n'y a pas d'armée saine, guerre à la guerre, mais surtout mort aux armées. C'est ce qu'on voulait réaffirmer en ce 13 novembre, deux jours après cette nouvelle commémoration du 11 novembre qui a eu lieu lundi.
Ouais, et puis à ce sujet, deux petites news qui sont tombées il n'y a pas très longtemps. Tu parlais de la militarisation et du fait qu'on soit de plus en plus technologique à ce niveau-là. Les industriels n'ont pas trop de soucis à se faire puisque le ministre de la Défense s'est félicité du fait que la Défense ne serait pas affectée par l'austérité budgétaire que va connaître la France. L'enveloppe qui était déjà de 47,2 milliards d'euros va passer à 50,5 milliards d'euros, donc plus de 3 milliards d'euros en plus pour les armées. On peut rappeler quand même que le budget c'était environ 32 000 euros à l'arrivée de Macron, et ça pourrait monter à 69 milliards, j'avais dit quoi, 32 milliards d'euros en 2017 à l'arrivée de Macron, et ça peut monter à 69 milliards d'euros en 2030, donc si le projet de loi de programmation militaire s'applique, et Michel Barnier a annoncé qu'il serait appliqué. Donc voilà, pas d'austérité pour les armées. Et la deuxième petite info, pour revenir, tu parlais du SNU tout à l'heure, là, à l'occasion des commémorations du 11 novembre, Michel Barnier a aussi annoncé la création d'un genre de service militaire. Un service militaire de sécurité et de protection civile pour tous les jeunes de 18 à 21 ans. Donc il n'y a plus le SNU, mais finalement ce sera remplacé par quelque chose d'encore plus militarisé.
Un mixte entre le SNU et le service civil, avec un peu plus de militarisation.
Et un peu plus de nationalisme, puisqu'il en profite aussi pour dire « Je vois le risque pour notre pays de désagrégation de ce sentiment national qui disparaît progressivement. » Donc voilà, on jette la jeunesse dans encore plus de militarisme et de nationalisme guerrier.
Et on sait justement que le militarisme nourrit le nationalisme et le repli sur soi et les discours populistes. Malheureusement, de l'autre côté de l'Atlantique, on en a un bel exemple avec cette triomphale réélection de Trump.
Ouais, on en a parlé, les camarades, la semaine dernière, on en parlait déjà. Trump a été réélu président des États-Unis. Et depuis la semaine dernière, on en sait un peu plus sur ses plans. Parmi ses premières annonces, il a pris la parole sur l'éducation Et là, on se dit Trump qui parle d'éducation, c'est un peu comme Macron qui parlerait de social. Hein. On hausse un sourcil et on reste vigilant. Et à raison, hein, puisque ces annonces en 10 points, elles ont de quoi donner des sueurs froides. La première, c'est respecter le droit des parents à contrôler l'éducation de leurs enfants. Ça rappelle vaguement des assauts, hein, que tu connais peut-être, de type parents vigilants en France, qui veulent simplement cracher sur les profs et s'assurer qu'on n'enseigne pas, par exemple, le Coran à leurs enfants, alors que cela n'existe que dans leur imagination. Le deuxième point, c'est embaucher de bons dirlots dans les écoles et virer les mauvais. Mais bons ou mauvais, d'après qui? D'après lui, hein, on peut imaginer. Donc ceux qui disent du mal, je sais pas moi, des confédérés dans le chapitre sur la guerre de sécession, ou qui critiquent l'esclavage, c'est dehors, afuera, hein, comme dirait Javier Milei, le nouveau président argentin. S'assurer, c'est le troisième point, s'assurer que les profs n'enseignent rien de politique à leurs élèves. On n'est pas là pour former leur esprit critique. La lecture, l'écriture, les maths, la science, ça suffit largement. Sauf que le dernier truc scientifique qu'a dit Donald Trump, hein, à ma connaissance, c'est qu'il fallait boire de l'eau de Javel pour combattre le Covid. Donc bon, niveau science, on a de quoi s'inquiéter aussi. Attends, le quatrième point, il contredit le troisième. Quatrième point, donc, apprendre aux élèves à aimer leur pays. C'est peut-être un petit peu politique, là, d'accord, mais c'est de la bonne politique, hein, puisque c'est nationaliste. Tu viens d'en parler, David. Cinquième point, des prières à l'école. Là, c'est bon, j'ai vérifié. La religion, si elle est chrétienne, c'est bon, c'est pas politique, hein, tout va bien. Tout va bien, pas de quoi s'inquiéter. Le sixième point, des écoles sûres et sans drogue. Donc, le gars qui est partisan des armes à feu dans les écoles pour éviter les fusillades, on se demande bien quelles seront ces mesures pour éviter la drogue. Septième point, des parents qui choisissent où mettre leurs enfants. Un truc donc pas applicable, hein, quand on voit déjà le boxon que c'est la carte scolaire en France. Huitième point, des projets plus concrets durant les cours pour se former à un travail. Voilà, donc hein, c'est confirmé, on n'est vraiment plus du tout là pour s'émanciper par l'apprentissage. On est juste là pour former des travailleuses et des travailleurs. Neuvième point, un meilleur accès à des stages. Je vous renvoie donc au point 8. Hein, je vous traduis ça dans les grandes lignes, mais il n'arrête pas de répéter successful une bonne dizaine de fois dans une seule phrase, histoire de bien appuyer son propos. Et enfin, point numéro 10, que l'école fasse du super boulot. Hein, bon, non, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, c'est vide de sens, mais il a encore mis des mots comme successful, great, awesome, comme il a l'habitude de le faire. Il enchaîne ensuite sur une super idée, donc fermer le ministère de l'éducation, hein, tout simplement. Encore un petit clin d'œil à Javier Milei, fermer donc un ministère qui est présent à Washington DC, la capitale, pour donner plus de pouvoir aux différents États. Donc pour les jeunes Américains et Américaines, plus de continuité territoriale dans l'apprentissage. On n'apprendra plus la même chose si on habite au Texas ou si on habite en Californie. Alors il explique tout ça par un soi-disant coût exorbitant de l'éducation si on le rapporte au nombre d'élèves, parce qu'en fait voilà, hein, la véritable raison de tout ça, réduire les dépenses, un peu comme en France, assécher le service public, mais pour quoi faire, hein, me direz-vous? Eh bien pour transférer tous les projets menés par le public vers les intérêts des privés. Du coup, pas que dans l'éducation, on peut se douter qu'il fera ça dans tous les autres domaines. Pour preuve, évidemment, et c'est pas une blague, c'est la nomination d'Elon Musk au poste de ministre de l'efficacité gouvernementale. D'ailleurs, avant de continuer sur ce sujet, un petit aparté, je me demande vraiment comment ils font tous ces grands patrons pour trouver le temps de manger et de dormir, hein, parce que eux qui bossent déjà 145 heures par semaine quand ils dirigent une seule entreprise, on peut rappeler que Musk, c'est le patron à la fois de Twitter, de Tesla, de Neuralink et de SpaceX, et en plus maintenant il va devenir ministre. C'est fou, hein, la capacité de travail de cet homme. On espère quand même qu'il aura le temps d'écrire des livres un petit peu comme l'ont fait Bruno Le Maire et Marlène Schiappa. Bref, Du coup, pour en revenir à Elon Musk, sa nomination, c'est un terrible signal envoyé aux fonctionnaires, évidemment. On sait qu'il a une gestion agressive déjà quand il est dans le privé, qu'il a tendance à virer les gens sur un coup de tête et qu'il déteste le public, puisqu'il a proposé et gagné un appel d'offres dans le transport ferroviaire en Californie juste pour empêcher une entreprise publique de développer le train, alors que lui-même n'avait aucun projet sérieux à proposer pour ça. Il s'agissait juste de récupérer un monopole au nez et à la barbe du service public. On peut donc avoir peur de la façon dont il va gérer son tout nouveau ministère. Ça rappelle un petit peu en France la nomination de Guillaume Kasbarian par Macron au poste de ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique. Bon, j'en perds mon souffle tellement, en fait, il a l'air compliqué publiquement, hein, ce ministère de facilitation et de simplification. Kasbarian, on s'en souvient, c'est celui qui, avec Aurore Berger, avait fait cette ignoble loi anti-squat qui a avantagé les proprios au détriment des locataires, et puis qui, depuis sa nomination, n'a de cesse de critiquer tous les services publics qui lui passent sous la main dès qu'il a un micro sous les lèvres. Eh bien, ce cher Guillaume Kasbarian, il a évidemment félicité Elon Musk sur sa plateforme Twitter en disant espérer partager avec lui, je cite, de bonnes pratiques pour combattre la bureaucratie excessive, comprendre les fonctionnaires, et améliorer l'efficacité des agents publics, comprendre là réduire leur salaire et détruire leurs conditions de travail. On n'arrête pas de dire que Trump, c'est un petit peu c'est un genre de Le Pen ou de Ciotti outre-Atlantique, mais c'est avant tout une copie politique de Macron. Donc inutile de dire, comme on l'entend souvent, que la France, elle suit les États-Unis avec 10 ans de retard. Là, pour le coup, ben, on a pris les devants. Enfin, espérons que cet adage de la France suit les États-Unis avec 10 ans de retard soit faux, puisqu'il a aussi annoncé vouloir nommer comme ministre de la Défense un certain Peter Hegseth, un présentateur de Fox News. Et Fox News, ben, en France, ce serait un petit peu CNews, ce serait donc comme nommer Pascal Pro à la tête des armées d'ici quelques années. Et personnellement, j'ai pas du tout envie de voir ça. Cette nomination, c'est aussi un terrible signal d'alarme pour les personnes trans, on en parlait tout à l'heure, outre-Atlantique, puisque Musk, en plus d'être un fan de crypto-monnaie et d'apartheid et de suprémacisme blanc, bah, c'est aussi un transphobe convaincu qui n'arrête pas de répéter des propos ignobles, notamment sur sa fille qui a transitionné, au point que cette dernière refuse de lui parler, qu'il dise des choses telles que « mon fils est mort, tué par le virus woke », et puis bon, bah, au point aussi qu'ici, Marguerite Stern se réjouisse de son nouveau poste ministériel. Au niveau d'autres annonces de nouveaux postes, Trump a aussi dit vouloir nommer l'ancien gouverneur de l'Arkansas, Mike Huckabee. C'est un ex-pasteur baptiste défenseur de la colonisation israélienne des territoires palestiniens occupés. Voilà, vouloir le nommer donc en tant qu'ambassadeur américain en Israël. Et puis aussi, bon, un ultra-conservateur, John Ratcliffe, à la tête de la CIA. Voilà, on ne va pas rentrer dans tous les détails, voilà pour les premières annonces donc de la future administration Trump pour les 4 ans à venir.
Premières annonces qui nous annoncent un monde merveilleux.
Ouais, oui.
Exactement. En tout cas, il va y avoir du travail et de la solidarité internationale à avoir pour dénoncer ce nouvel ordre mondial qui va reposer sur ces logiques-là. On va justement faire une deuxième pause musicale dans cette émission Idées Noires. On va retrouver les Rage Against the Machine. Ah. Rage Against the Machine qui, on le sait, hein, Zach de la Rocha comme Tom Morello ont été des activistes du mouvement Rock Against Trump dès déjà sa première candidature et qui ont mené une lutte contre-culturelle importante contre Trump, malheureusement sans que celle-ci ait triomphé, mais en tout cas ils vont sûrement continuer à alimenter la contestation culturelle et sociale à travers leurs différentes interventions musicales, et donc c'est pour ça qu'ils avaient toute leur place dans cette émission Idées Noires. On va retrouver un extrait de leur premier album avec le morceau Bullet in the Head, ce qui était pas loin d'avoir arrivé à Donald Trump. It's time to pull the cold rock job.
Bullet in the Head de Rage Against the Machine, une chanson, un groupe qui donne envie de lever le poing et de lutter. Du coup, c'est l'occasion de vous parler de la fédération Black Rose Rosa Negra, une organisation communiste libertaire états-unienne. Hein, tu parlais tout à l'heure de solidarité internationale, et bien la fédération libertaire états-unienne a publié une première réaction à l'élection de Donald Trump dont on parlait juste avant. Et les camarades des camarades de l'UCL l'ont traduite et publiée sur notre site unioncommunistelibertaire.org. Voilà, c'est un communiqué qui revient en 7 points sur quoi faire maintenant. Il s'intitule « Pas de panique, on s'organise et on fait face au second mandat de Trump ». Voilà, les 7 points, c'est se battre, descendre dans la rue, nous organiser, faire grandir nos mouvements, mettre le feu aux poudres, consolider le pouvoir populaire et trouver un foyer politique. C'est un communiqué donc, que vous pouvez retrouver sur notre site unioncommunistelibertaire.org.
Et puis, puisqu'on parle de lutte, on va terminer cette émission en revenant peut-être sur les luttes qui s'annoncent face aux politiques d'austérité, aux licenciements et à la démolition sociale qui est poursuivie par le gouvernement actuel en France. On peut se demander si la rue ne va pas enfin reprendre le dessus sur le débat politicien et le débat parlementaire, puisque, en tout cas, alors que les députés et les sénateurs examinent toujours le projet de loi de finances de l'État et de la sécurité sociale, avec un probable passage en force, les annonces de grève et de mobilisation du coup se multiplient, et c'est tant mieux, et on voulait quand même terminer par ça et encourager tous ceux qui luttent et qui agissent collectivement, puisque il semblerait que les temps changent, il semblerait que le temps suspendu dans lequel le pays a été plongé par la dissolution, les élections législatives, l'absence prolongée de nomination d'un gouvernement, les Jeux Olympiques, puis les incertitudes politiques liées à la désignation d'un exécutif issu d'une minorité parlementaire, ce temps-là, il semble prendre fin. Déjà, mi-octobre, la grève pendant plusieurs jours des salariés de Sanofi contre la cession de la filiale du groupe pharmaceutique produisant le Doliprane, suivie par celle de 24 heures du secteur de la santé le 29 octobre dernier, avait esquissé un retour de la contestation sociale par l'action syndicale et collective. Et aujourd'hui, ce sont les salariés du groupe Michelin qui se mobilisent après l'annonce par leur direction le 5 novembre dernier, la semaine dernière, de la fermeture des sites de Cholet et de Vannes d'ici 2026. C'est plus de 1200 personnes, 1200 emplois qui sont concernés, a provoqué une réaction salutaire de mobilisation sociale et collective. On voit bien que, du coup, l'emploi, la question de l'emploi et des licenciements reviennent sur le devant de la scène, puisque dès l'annonce, comme on le disait, de la fermeture à venir de leur unité de production, les salariés de Michelin à Cholet ont bloqué le site et voté pour la grève autour d'une intersyndicale assez large, que ceux de Vannes ont d'abord sonné par l'annonce qui était faite, ont manifesté le 8 novembre dernier, vendredi dernier, là aussi de façon assez déterminée. Et cette semaine, c'est les syndicats du groupe qui appellent à des grèves sur tous les sites, et la CGT a même lancé une mobilisation nationale mercredi à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, qui est la ville berceau, bien sûr, de Michelin. Des salariés donc de Cholet et de Vannes d'ailleurs doivent faire de déplacements et ils sont attendus. On peut aussi signaler que le même jour que l'annonce de la fermeture des sites Michelin, c'est le groupe Auchan, propriété de la famille Muyez, qui est quand même la 7e fortune de France, qui a annoncé, eux, un plan social non pas de 1200 personnes, mais de 2389 personnes, de près de 2400 emplois qui sont donc menacés par la fermeture d'une dizaine de magasins et de 3 entrepôts. Alors là aussi, la CGT a déposé un préavis de grève reconductible à compter du 7 novembre et quelques rassemblements ont déjà eu lieu devant plusieurs magasins de l'enseigne. Et la question des suppressions d'emplois pourrait peut-être devenir centrale dans les semaines et dans les mois qui viennent. On sait que déjà le 17 octobre dernier, la CGT avait publié une liste de 180 plans de licenciement sur l'ensemble du territoire. Une alerte que le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, n'a pas démentie en déclarant samedi dernier sur France Inter, par exemple, que des milliers d'emplois allaient probablement être détruits. Un nombre d'ailleurs que la secrétaire générale de la CGT, elle estimait à pas des milliers, mais des dizaines de milliers, puisqu'elle les estime à 150 000. Des licenciements pour lesquels elle réclame un moratoire. Et afin de l'obtenir, la CGT appelle à des mobilisations pour l'emploi dans toutes les régions le 12 décembre prochain. Du coup, on assiste bien à une multiplication de grèves sectorielles en série, mais puisque d'ici ce 12 septembre prochain, d'ici là, de nombreuses grèves sont prévues. On peut en citer plusieurs. Celle qui a fait la une des journaux ces derniers jours, bien sûr, c'est celle des cheminots, puisque les quatre syndicats représentatifs de la SNCF appellent à une journée de grève le 21 novembre prochain pour s'opposer au démantèlement du fret SNCF et sur la question des salaires. Une grève de 24 heures, mais qui devrait être poursuivie par un mouvement reconductible à partir du 11 décembre, si la direction et le gouvernement refusent le moratoire qui est demandé par les organisations syndicales sur la liquidation du fret. On sait que les fonctionnaires, on l'a cité tout à l'heure, on en a parlé, vont également se mobiliser dans les semaines à venir. C'est même indispensable, puisque les syndicats de la fonction publique se sont réunis hier et vont certainement annoncer, suite à leur entrevue avec le ministre jeudi dernier, leur détermination à s'opposer par des grèves aux mesures antisociales qui vont frapper les fonctionnaires et les salariés de la fonction publique, en l'occurrence l'instauration de 3 jours de carence sous prétexte pour s'aligner avec le secteur du privé, alors qu'on sait que dans la plupart des entreprises du privé, il y a des conventions collectives qui assurent le fait qu'il n'y ait pas du tout de jours de carence, mais ça veut dire que pour les fonctionnaires, s'arrêter pour une grippe, pour une bonne grippe qui sèche pendant une semaine, ça veut dire déjà perdre 200 ou 300 euros sur son salaire entre ces 3 jours de carence et entre le fait qu'il y aurait une réduction à 90% des indemnités de congé maladie, c'est-à-dire que les jours en congé maladie ne seraient plus pris en charge à 100%. Alors si une date au début du mois de décembre a été évoquée, pour l'instant les modalités d'action n'ont pas encore été déterminées. Elles vont être sûrement annoncées dans les jours qui arrivent par les fédérations de fonctionnaires, auxquelles vont se joindre ceux de l'éducation nationale, qui sont bien sûr concernés par ces mesures antisociales de la fonction publique, mais qui sont aussi concernés par les 4000 suppressions de postes qui sont prévues au budget 2025. Et puis bien sûr aussi l'annonce pas plus tard qu'hier du passage à l'acte 2 du fameux choc des savoirs qui avait été instauré par le gouvernement Attal avec ses fameux groupes de niveau et son renforcement de la sélection sociale dans l'éducation. On s'attend aussi à une mobilisation des soignants à partir du 29 octobre prochain, puisqu'il y a des préavis de grève qui ont été déposés. Puis autre mouvement qui a moins fait la une mais qui est mobilisé, c'est le secteur de la petite enfance, qui sera mobilisé le 19 novembre prochain à l'appel du collectif Pas de bébé à la consigne et de plusieurs organisations syndicales pour dénoncer la dégradation des conditions d'accueil des tout-petits et les conditions de travail des professionnels. On voit donc que si on rajoute à ça la colère des agriculteurs qui ont décidé aussi de se mobiliser contre les accords de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercantour au cours des 2 prochains mois, peut-être que la fin d'automne et le début d'hiver risquent d'être chauds. Peut-être que la question sociale va réapparaître en force et qu'en effet, la rue, l'action collective, la grève et la lutte va prendre le pas sur les discussions politiciennes et les discussions au Parlement. Et c'est très bien. Et bien évidemment, Rémi, on sera de la partie. On sera sur cette antenne de Radio Canut pour relayer toutes ces luttes et tous ces mouvements de grève. Et puis, on sera aussi dans la rue en tant que salarié et dans toutes les solidarités interprofessionnelles, parce qu'on sait que c'est par la grève et l'action collective qu'on changera les choses et qu'on fera avancer la question sociale.
Pour finir, peut-être, puisqu'il nous reste 2 minutes, après tout ça, on peut essayer des petites bonnes nouvelles. Donc déjà, Jean-Marie Le Pen est hospitalisé. On ne va pas se réjouir tout de suite. On sait très bien qu'il est hospitalisé parce qu'il est en procès actuellement. Mais puisqu'on parle de procès de Le Peniste, on peut rappeler aussi que Marine Le Pen est en procès actuellement et que sa défense est catastrophique. Elle risque, je crois, 4 ans de prison et 10 ans d'inéligibilité, quelque chose comme ça. Et du coup, je vous invite à aller lire un article des Jours, un journal qui n'est pas possédé par des milliardaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment de la grande qualité et des articles désopilants. Et là, il y en a un qui s'appelle « Au procès du RN, toute la vérité alternative, rien que la vérité alternative ». Il est fabuleux, c'est succulent. La défense des lepénistes et du Front National est absolument ridicule. Et cet article le met bien en évidence. Donc voilà, si vous voulez soutenir un journal indépendant, abonnez-vous au Jour et allez lire ce super article. Et puis pour finir, hein, puisqu'on était, enfin c'est pas tout à fait des bonnes nouvelles, mais les annonces d'événements, ça reste quand même des moments où on se rassemble et où on lutte ensemble. Donc voilà, le demain à partir de 19h, place des Terreaux, une marche au flambeau pour la libération de Georges Abdallah, contre le génocide à Gaza et pour un cessez-le-feu au Liban. C'est demain à 19h, place des Terreaux.
Allez, c'est avec ce rendez-vous qu'on termine cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire. On vous donne rendez-vous mercredi prochain à 20h sur cette antenne de Radio K.